Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 et on se retrouve encore une fois cet après-midi pour cette série d'émissions consacrée à l'UVWE01, Questionner le web, qui est enseigné à l'Université de Technologie de Compiègne, mais dont le contenu est aussi accessible librement sur le web librecours.net. Toute cet après-midi, donc, les étudiants et les étudiantes viennent nous présenter le résultat de leurs travaux du semestre. C'est un peu l'aboutissement de leur projet qui s'articule autour de grandes problématiques autour du web et plus généralement du numérique. Et cet après-midi, donc là tout de suite, je suis en direct en studio avec trois étudiantes et étudiants, Johan, Gabrielle et Corentine. Bonjour à vous, bienvenue.
Bonjour, merci. Bonjour.
Et donc vous avez travaillé sur deux projets différents que vous allez nous présenter, mais qui sont quelque part, on pourrait les relier de par le fait que pour une part vous allez nous parler d'une forme d'extractivisme, mais plutôt celle de l'attention des données, et toi Johan, tu nous parleras plus concrètement d'extractivisme en termes de ressources. Et pour commencer, du coup, bah, c'est à vous Corentine et Gabrielle, je vous laisse la main.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour commencer notre émission, aujourd'hui, j'aimerais que vous visualisiez un petit rat placé dans une boîte de laboratoire. Donc, quand ce rat a faim, il comprend très vite comment se nourrir. Il lui suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir une dose de nourriture. Jusque-là, tout est logique, son comportement est parfaitement rationnel. Mais c'est là que l'expérience devient intéressante. Imaginons maintenant que la nourriture n'apparaisse plus de façon systématique à chaque pression, mais plutôt de manière totalement aléatoire. Donc, une fois oui, trois fois non, puis deux fois oui. Que fait le rat? Il devient complètement obsédé, il se met frénétiquement à actionner le levier encore et encore pour avoir de la nourriture, prisonnier par l'espoir d'obtenir sa prochaine récompense.
Cette expérience scientifique, c'est celle de la boîte de Skinner, et elle a été faite pour décrypter les mécanismes de la dépendance cognitive. Aujourd'hui, dans le cadre de l'UVWE1, nous allons voir comment les plateformes numériques appliquent ces théories de psychologie pour capter notre attention dans un but financier. Cela nous permettra par la suite de montrer par ce phénomène que la technique n'est jamais neutre. Donc pour ce faire, nous allons analyser la bande dessinée de Simon Giraudot, alias G, publiée sur Framablog et intitulée « Attention à l'économie de l'attention ». Donc tout d'abord, commençons par l'économie de l'attention. Ce concept désigne un ensemble de dispositifs mis en œuvre afin d'extraire une valeur marchande à partir de la captation de l'attention des utilisateurs. Cette idée, elle est apparue bien avant les réseaux sociaux, parce que dès 1971, l'économiste et chercheur Herbert Simon expliquait qu'une abondance d'informations crée une rareté de l'attention, c'est-à-dire que plus il y a de contenu disponible, plus l'attention humaine devient difficile à capter et donc une ressource précieuse.
Exactement, l'attention est une ressource rare et qui va se marchandiser. En effet, l'attention humaine est une ressource limitée et précieuse. Les plateformes cherchent à capter cette attention afin de maximiser le temps passé par les utilisateurs sur leurs services. Par exemple, lorsqu'on lance l'application TikTok, une vidéo se lance directement et on peut ensuite faire défiler les vidéos à l'infini sans jamais s'arrêter. De plus, l'algorithme personnalise le contenu qui défile afin de maintenir l'attention au maximum. Cela va leur permettre d'exposer les utilisateurs à la publicité, de collecter des données sur leur comportement et de générer des revenus en les vendant. Bien que la majorité de ces services des big tech soient gratuits, leurs capitalisations boursières sont parmi les premières au monde. On peut prendre l'exemple de Meta qui vend des espaces de publicité aux entreprises afin de toucher des consommateurs ciblés. Grâce à ces ventes, la plateforme a obtenu plus de 115 milliards de dollars de revenus en 2022. La donnée apparaît donc comme la nouvelle marchandise de ce 21e siècle, générée par notre attention.
Aujourd'hui, les plateformes numériques ne sont plus seulement un espace d'échange et de partage libre. Elles exercent aussi une fonction éditoriale qu'on pourrait comparer à celle des médias traditionnels. Ces plateformes reposent à présent sur des algorithmes qui sélectionnent stratégiquement pour chaque utilisateur les contenus qui sont cachés, les contenus qui sont montrés, et également leur ordre d'apparition. Les réseaux sociaux deviennent ainsi des médias sociaux, dont l'objectif principal est de capter l'attention. C'est ce qu'on appelle l'éditorialisation. Les utilisateurs, eux, n'ont aucune maîtrise des critères de sélection et sont soumis à une véritable bulle de filtre. Voici quelques exemples des algorithmes mis en place. Sur Google, par exemple, derrière chaque recherche, le moteur capte une foule d'informations pour affiner la publicité ciblée. Sur Facebook ou Instagram, chaque like et chaque partage vient nourrir une base gigantesque pour ensuite proposer des publicités hyper ciblées. Cette notion de ciblage entraîne des problématiques graves comme l'aliénation dans un type de pensée qui empêche d'exercer un réel esprit critique, pouvant conduire à une radicalisation des façons de penser. Ces algorithmes propulsent les tendances et enferment subtilement chaque utilisateur dans un univers calibré qui efface progressivement les opinions divergentes.
Donc l'utilisation des mécanismes de l'attention, pour générer des profits, les plateformes utilisent le concept de captologie. Il est apparu dans les années 1990 avec les travaux de B.J. Fogg à Stanford. Donc celle-ci étudie les technologies conçues pour influencer les comportements, non pas en forçant les utilisateurs, mais en utilisant la persuasion. Dans la continuité de ces recherches, des entrepreneurs comme Nir et Yal ont développé des méthodes pour rendre les applications toujours plus attractives. Aujourd'hui, les plateformes mobilisent ces mécanismes que l'on peut rapprocher des principes étudiés en psychologie, comme celui de la boîte de Skinner, afin de capter le plus possible notre attention. Donc, par plusieurs mécanismes, comme transmettre une récompense aléatoire, donc, comme dans la boîte de Skinner. Le principe consiste à alterner entre une majorité de contenus peu intéressants et quelques contenus beaucoup plus attractifs. Cela crée un cycle de frustration et de récompense qui augmente la motivation à scroller à l'infini afin de trouver la pépite. Ce mécanisme de frustration, bien connu dans les casinos, est souvent à l'origine de comportements addictifs. Ensuite, un autre mécanisme est d'accorder des récompenses personnelles comme les likes, les commentaires ou les followers qui vont jouer sur les biais cognitifs humains comme le besoin de popularité et de reconnaissance sociale, ce qui va pousser les utilisateurs à concentrer leur attention sur la plateforme. Et enfin, les plateformes ont pour objectif de capter l'attention en permanence avec des notifications qui nous poussent à nous rendre sur l'application même quand le contexte ne s'y prête pas, comme en conduisant ou en cours.
La conception de ces interfaces s'appuie donc directement sur des sciences du comportement. Les entreprises technologiques embauchent des psychologues pour modéliser des circuits d'addiction. Ainsi, la frustration, la dépendance et le mal-être ne sont pas des dommages collatéraux. Ils deviennent des leviers intentionnels essentiels à la survie de ce modèle économique. On peut retrouver ce cas dans les jeux mobiles free-to-play, où sous couvert de gratuité, ces jeux sont conçus pour bloquer la progression du joueur et le pousser à dépenser de l'argent réel. Par exemple avec Clash of Clans, où certaines améliorations prennent plusieurs jours, sauf si on achète des accélérations. On a aussi dans Candy Crush la possibilité de payer, car après des échecs, le joueur doit payer s'il veut continuer à jouer sans interruption.
Donc maintenant, je vais vous parler d'un concept vu en cours qui va nous permettre de faire du lien avec les idées de l'article que nous avons vu juste avant. Donc cela nous amène au concept clé, celui de la non-neutralité de la technique. Donc l'idée selon laquelle la technologie est neutre et tout dépend de l'usage qu'on en fait, sert d'appui à l'argument du couteau. Un couteau peut beurrer une tartine ou blesser quelqu'un, et donc seul l'humain serait responsable de son usage. Nous allons voir que cette idée sert surtout d'excuse pour déresponsabiliser ce qui crée les technologies. Car en réalité, la technique n'est pas neutre, pour trois grandes raisons. Pour commencer, les créateurs incluent leurs croyances dans leurs inventions. Donc quand ils fabriquent un outil, ils intègrent leurs intentions directement dans son design et son fonctionnement. C'est comme s'ils faisaient un choix politique a priori, donc dès sa conception. Par exemple, un dodane n'est pas un morceau de goudron neutre, car c'est un objet qui impose une règle de sécurité stricte et force les automobilistes à ralentir. Ensuite, les outils techniques changent notre façon de voir le monde et modifient notre réalité, ce qui constitue l'impact a posteriori, donc après la création de l'outil. Par exemple, si on se balade les mains vides, un hippopotame est un prédateur dangereux, mais avec une pierre taillée, il devient une source de nourriture. L'outil reconfigure donc notre rapport au monde. Plus récemment, l'invention de l'ordinateur a changé la manière dont le cerveau réfléchit et il en sera probablement de même avec l'IA. Enfin, le philosophe Jacques Ellul explique qu'une technique est un pharmacon, un mot grec qui signifie à la fois remède et poison. En ce sens, ses effets, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont indissociables. Par exemple, aux États-Unis, des antidouleurs prescrits sur ordonnance, donc souvent des drogues, ont été massivement détournés, entraînant de graves problèmes d'addiction. De la même façon, l'aspect pratique des réseaux sociaux n'est pas dissociable des risques de cyberharcèlement et de désinformation. Il est aussi important de prendre conscience de la stratégie adoptée par les vendeurs. Donc quand la technique pose problème, elle est souvent neutre et la faute revient aux utilisateurs qui utilisent mal la technique. En revanche, quand il s'agit de vendre leurs produits, les vendeurs oublient la neutralité et promettent que leur invention est bonne pour le monde.
La BD de G illustre bien le concept de la non-neutralité de la technique, car dans sa BD, l'auteur illustre l'argument du couteau en employant le terme de médias sociaux au lieu de réseaux sociaux. Selon lui, les plateformes agissent comme des médias absolument non neutres qui cherchent à orienter les contenus et la manière d'agir des utilisateurs. Il indique également que le système d'économie de l'attention est réfléchi bien avant la conception des plateformes, en embauchant des psychologues pour créer la dépendance. Et de plus, on retrouve le concept de pharmacon qui éclaire cette ambivalence, où l'euromède ici est la communication et le partage, mais le poison, lui, consiste à exploiter nos biais psychologiques pour nous rendre addicts. Et ce poison n'est pas un accident, il est nécessaire à la rentabilité de leur système. Alors, quelle solution pour ne plus être prisonnier des algorithmes ? J nous propose de s'orienter vers des plateformes libres et décentralisées comme Mastodon. Dans un réseau centralisé classique, une seule entreprise contrôle la plateforme et les données. A l'inverse, dans une plateforme décentralisée, le réseau est composé de nombreux serveurs indépendants, gérés par des associations ou des particuliers qui définissent leurs propres règles. Cela répartit le pouvoir. Mais toutefois, J souligne que ces alternatives ne font pas disparaître totalement les logiques de captation.
Mais de notre côté, nous avions quand même envie d'imaginer ce que pourrait être un réseau social complètement ouvert. Tout d'abord, ce serait un logiciel libre, dont le code serait accessible et modifiable par tous les utilisateurs, garantissant une transparence sur la manière dont les contenus sont mis en avant. On s'est dit aussi que ce serait un logiciel décentralisé, donc pour limiter la dépendance à une seule multinationale. Le réseau serait donc composé de nombreux serveurs indépendants gérés par des associations, ou des universités, ou des collectifs, ou des particuliers. On pourrait aussi y ajouter l'idée d'interopérabilité et de fédération. Donc les différents serveurs pourraient communiquer entre eux grâce à des règles communes, ce qui permettrait aux utilisateurs d'échanger même s'ils ne sont pas sur le même serveur, sans être enfermés donc dans une seule plateforme. Dans ce cadre, l'objectif serait de concevoir des mécanismes favorisant d'autres usages. Donc, par exemple, au lieu qu'un algorithme sélectionne les contenus pour maximiser le temps passé, chaque utilisateur choisirait lui-même les critères de son feed d'actualité. La publicité pourrait disparaître au profit d'un financement participatif à la manière de Wikipédia ou OpenStreetMap, et les mécanismes de comparaison comme les likes seraient réduits. De plus, les notifications seraient limitées aux usages réellement choisis par les utilisateurs. Enfin, l'objectif ne serait plus de maximiser le temps passé sur la plateforme, mais de proposer une interface plus simple, conçue pour limiter les sollicitations constantes et répondre davantage aux besoins réels d'un utilisateur.
C'est un modèle intéressant, mais il se heurte à la réalité de l'inclusion sociale. Choisir individuellement de quitter les réseaux des GAFAM pourrait couper des canaux de communication essentiels et mener à l'isolement. Si l'on prend l'exemple de notre quotidien à l'UTC, il est aujourd'hui très difficile de travailler en groupe, de s'intégrer dans la vie associative ou de recevoir les informations sur les événements de l'école sans utiliser les plateformes des GAFAM. Partir seul reviendrait à se marginaliser. L'enjeu n'est donc pas seulement individuel ou technique, il est collectif. L'objectif serait de créer une dynamique plus commune pour modifier nos habitudes et migrer ensemble vers des outils plus respectueux.
Pour conclure, la BD de J et les concepts du cours nous rappellent que les plateformes numériques ne sont pas de simples outils d'hébergement. Comme le souligne le chercheur Pierre Steiner, les intentions et les biais des concepteurs sont ancrés dans le fonctionnement technique même de ces services. En effet, les plateformes façonnent activement nos architectures cognitives et orientent nos comportements sociaux pour faire du profit. Cela nous permet de conclure que la technique n'est pas neutre, elle oriente nos comportements et nos structures sociales. Cette réflexion nous semble indispensable en tant que futurs ingénieurs et citoyens responsables. Merci beaucoup pour votre écoute.
Merci beaucoup Gabriel et Corentine pour votre travail et votre restitution. Qu'on justement rappelé que si on pouvait en effet utiliser le fait que la technique n'est pas neutre pour essayer de changer, d'influencer sur la manière dont elle va être utilisée, elle est aussi dépendante d'un système plus large dans lequel elle s'inscrit. Et donc, bien sûr, on peut designer des réseaux sociaux qui ont moins les défauts que vous avez présentés, mais ça ne suffit pas typiquement à l'UTC pour faire changer les gens de plateforme. Et c'est une question très intéressante de savoir comment est-ce qu'on ferait ou non. Et du coup, vous avez beaucoup parlé de cette économie de l'attention avec les conséquences que vous avez présentées qui nous concernent, nous, directement. Mais un sujet qui est rarement discuté dans la sphère de la critique numérique, c'est celui de la question des ressources qui, sans lesquelles le numérique ne pourrait pas exister. Et comme on a pu parler d'extractivisme attentionnel, on va parler, enfin Johan, tu vas nous parler dans l'exposé de ton projet de cet extractivisme et de la question des ressources. Avant ça, je propose de faire une petite pause avec une musique que tu as choisie, Johan. C'est Lagrima de Oro de Manu Chao sur l'album Clandestino, et on se retrouve juste après.
no tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. No tiene la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión.
De retour sur Graphite 94.9 pour la suite de cette émission consacrée au projet des étudiantes et des étudiants de W01. Comme je disais juste avant la musique, c'est toi, Joanne, qui prend la suite et qui va nous parler de la question cruciale quand on parle de numérique, et bien de la matérialité du numérique et plus précisément de l'extraction des ressources nécessaires à la fabrication de nos appareils.
Merci Quentin. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Joanne Maisonneuve. Je suis étudiant à l'UTC en quatrième année. Et dans le cadre du cours de WE1, l'UV pour questionner le web à l'UTC, on va parler d'une chose commune donc à tous nos smartphones, nos voitures électriques et nos panneaux solaires, les métaux rares. Alors, au programme, on va commencer par la présentation de l'ouvrage de Guillaume Pitron, qui est intitulé « La guerre des métaux rares ». Nous explorerons le concept de la non-neutralité de la technique, donc on en a parlé un petit peu juste avant avec mes camarades. Et enfin, on articulera les deux pour expliquer comment l'extractivisme est un argument pour défendre la thèse de la non-neutralité de la technique. Guillaume Pitron, c'est un journaliste spécialiste de la géopolitique des matières premières. Dans son livre paru en 2018, il présente les grands mécanismes de l'extractivisme dans le monde et son impact environnemental. Ce livre, c'est le fruit de 6 années d'enquête de terrain, notamment en Chine, et il s'en est même suivi la réalisation d'un documentaire en 2020 qui est disponible sur Arte. La thèse centrale de Pitron, elle tient en une citation, en fait, pour faire du propre, il faut faire du sale. Concrètement, quand l'Europe décide de passer aux énergies renouvelables, elle a besoin de terres rares, généralement des métaux rares, pour fabriquer ses éoliennes, ses batteries, ses panneaux solaires. Or, extraire ces métaux, c'est extrêmement polluant. Et comme les pays occidentaux ont décidé dans les années 1980 de se débarrasser de cette extraction pour des raisons environnementales et de coûts, c'est la Chine qui s'en est chargée. Elle concentre aujourd'hui entre 30 et 40% des gisements mondiaux de métaux rares, produit 70% des panneaux solaires et 30% des éoliennes du monde en sacrifiant consciemment son propre environnement. Pitron l'observe très concrètement sur le terrain. En Mongolie intérieure, les poussières de graphite issues des mines contaminent les nappes phréatiques. Résultat, des maladies osseuses, des cancers, des villages abandonnés. C'est pas une externalité secondaire, en fait, c'est le prix réel des technologies vertes, simplement payées et délocalisées ailleurs. Ce que Pitron appelle la souveraineté écologique dans son livre, c'est la capacité d'un territoire à maîtriser les impacts environnementaux de ses choix énergétiques. Elle est donc aujourd'hui totalement perdue pour l'Occident, car il a externalisé la pollution sans vraiment l'éliminer. Ce n'est pas une transition écologique, c'est une délocalisation de la pollution. Voici un court extrait du TEDx de Guillaume Pitron lui-même, à Lille, en 2018, qui parle de cette délocalisation des compagnies minières et de raffinage françaises dans les années 90.
Il y a des troubles sociaux. Les coûts de l'extraction de ces métaux, de la purification de ces métaux, commençaient à exploser, n'étaient plus rentables. Rhône-Poulenc se dit, on délocalise nos activités en Chine. Donc au même moment, vous avez une minière, une compagnie minière, et une compagnie d'extraction et de raffinage de ces métaux rares, qui en fait, de concert mais sans se concerter, décident soit de fermer, soit de délocaliser leurs activités. Et à ce moment-là, qui récupère le bébé? Eh bien, ce sont les Chinois. Parce que dans ces années-là, les Chinois vous disent, vous savez, Mao, ça ne s'est pas hyper bien passé pour nous. La révolution agricole, ça n'a pas exactement eu le succès escompté. On mise tout sur l'industrie. Et on a plein de gisements de terres rares et de métaux rares en général. On peut vous fournir des terres rares pas chères, abondantes. On va sacrifier notre environnement, mais ce n'est pas grave. Nous, ce qui nous importe, c'est le développement économique. Et nous, on s'est débarrassé des terres rares.
Le concept dont on va parler pour la partie suivante, c'est la non-neutralité de la technique. Alors on en a parlé juste un petit peu avant avec mes camarades, qui sont passés juste avant. Pour commencer, je vais vous proposer la définition suivante. La technique, c'est l'ensemble des moyens conçus par des êtres humains pour la réalisation de fins posées par des êtres humains. Alors l'idée de départ, elle est simple. Un outil, ça ne pense pas, ça ne choisit pas. C'est ce qu'on appelle l'argument du couteau. On en a parlé juste avant. Le couteau peut beurrer une tartine ou blesser quelqu'un. Donc c'est l'usage qui compte, pas l'outil. Sauf que cette logique, elle est insuffisante pour trois raisons. La première raison, un outil ne fait rien tout seul, mais il fait faire. En fait, il ouvre certains chemins et en ferme d'autres. On a vu juste avant avec l'exemple de l'hippopotame. En fait, si l'hippopotame apparaît comme une seconde source de nourriture et non plus comme un prédateur, c'est grâce à l'invention de la pierre taillée. La deuxième raison, c'est que la technique, elle n'est pas vraiment fabriquée dans un vide de valeur. Quand une entreprise conçoit un algorithme de recommandation, en fait, elle inscrit une certaine idée de ce que l'utilisateur devrait vouloir en faire, du temps qui va passer sur l'application. Toutes ces représentations, elles se retrouvent donc directement dans le code, donc dans l'objet technique qui embarque en fait des valeurs. La troisième raison, et sûrement la plus profonde, la technique nous transforme. Ellul et avant lui Jacques Goudy, avec le concept de la raison graphique, montre que l'écriture n'a pas simplement aidé les êtres humains déjà là à penser mieux, en fait elle a produit de nouvelles formes de pensée, qui sont donc les mathématiques, le droit codifié et de manière générale la science. Changer de technique, c'est en fait changer de façon de raisonner. L'extractivisme des métaux rares, ce n'est pas un accident industriel qu'on corrigerait en changeant quelques pratiques. Les technologies vertes, elles se présentent comme la solution enfin neutre aux problèmes posés par des techniques précédentes, notamment les hydrocarbures ou le charbon, mais elles produisent sensiblement la même structure par l'extractivisme, des coûts réels, externalisés et invisibilisés. Un des domaines au niveau duquel la réalité de l'extractivisme est fortement invisibilisée, c'est celui de l'ingénierie. La formation d'ingénieurs transmet un ensemble de savoir-faire et de méthodes qui sont des techniques. Quand un ingénieur conçoit une batterie, il optimise l'autonomie, la densité énergétique, le poids, mais avec tout ça, dans son angle mort, l'ensemble des coûts écologiques et sociaux de l'extractivisme. Le périmètre de son recul exclut structurellement les conditions d'extraction du lithium en Bolivie ou du cobalt en République démocratique du Congo. Ce périmètre n'est pas neutre, il reflète d'une organisation du monde où les coûts écologiques et sociaux ne comptent pas dans la catégorie des contraintes techniques. Pour revenir à notre texte, Pitron propose trois leviers d'action. relocaliser les filières pour retrouver une souveraineté écologique, utiliser la blockchain qui permet de tracer l'origine des minerais et enfin intégrer le coût écologique dans le prix des économies. Des technologies, pardon. La question que posent surtout ces leviers d'action, c'est celle du débat de société. En fait, si la technique embarque des valeurs, et on a vu que c'était le cas, alors les choix techniques doivent devenir des choix collectifs. Les laisser aux seuls ingénieurs et industriels sous prétexte qu'ils seraient neutres, c'est déléguer des décisions politiques à des acteurs qui n'ont pas reçu ce mandat. Réguler après coup, c'est en quelque sorte arriver trop tard, car les chemins sont déjà tracés et les dépendances déjà créées. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Johan, pour ton travail et pour ton exposé, que je trouve particulièrement limpide et qu'aborde un sujet que la plupart, du coup, des ingénieurs devraient avoir connaissance, qui devraient, à mon avis, intégrer les enseignements. Et je conseille aussi la lecture du livre Barbarie numérique de Fabien Lebrun, qui aborde frontalement la question de l'extractivisme en République démocratique du Congo. Tu l'as mentionné, Johan, mais il y en à d'autres, mais voilà, on va s'arrêter là pour cette émission et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite des émissions consacrées à l'UVWE01 pour deux autres projets. À tout à l'heure et merci encore, Johan. Salut.
Merci.